Et bonjour les filles, bonjour Léo, on se retrouve pour une nouvelle édition de Ma Préférence. Comment allez-vous?
Bonjour Tiffaine.
Ah, moi je suis grippée, je ne sais pas si ça s'entend.
Et oui, on se tient à distance,
très loin.
On s'est mis au plus loin du bureau.
On aurait dû sortir les masques en fait.
Oui, on est quand même bien loin, hein, Vanessa, je t'inquiète.
Ouais, on est avec une invitée, bien sûr, Milena de la troupe Legacy, qui va nous parler un peu de son projet. Bon, ça, on verra plus tard. Non, on va voir ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on va voir ça avec ta chronique aussi.
Ben, oui, je vais commencer. Moi, je vais parler de théâtre un petit peu, et puis comme ça, j'enchaînerai et on présentera Milena. Je voulais juste vous parler d'un petit événement auquel j'ai participé hier. Enfin, du coup, quand vous écouterez cette émission, ce sera pas hier, vraiment.
C'est les 24 heures de
Love Me Tender.
Ah oui.
À la Cave Poésie. C'est la première fois que je participais à cet événement. Je connaissais pas du tout. Donc, c'était 24 heures de lecture. Ben, ça se termine là, à cette heure-ci, à 14 heures. C'était de 14 heures hier à 14 heures aujourd'hui, dans une université et à la Cave Poésie. Donc, moi, j'ai fait une lecture avec le Club Dramatique, une compagnie très chouette toulousaine. Et on a fait Illusion, un texte qui s'appelait Illusion. Il y avait plein de choses. Juste après nous, il y avait des lettres. C'était une compagnie de Parisiens, des lettres qui c'était à des hommes qui s'adressaient à une femme qui travaillait dans une radio à l'époque, qui recevait plein de lettres de gens qui lui parlaient de leur quotidien, de leurs problèmes, tout ça. Et c'était hyper drôle parce que c'était aussi de l'époque. Alors on voit aussi les machos de l'époque, le machisme. Il y en avait une qui m'a marquée. Il lui écrivait « Bon, faudrait que vous arrêtiez un petit peu ce que vous dites à votre radio là, parce que ma femme, elle s'émancipe, c'est n'importe quoi. » faudrait cesser de porter la culotte de manière intempestive. Ça m'a fait beaucoup rire.
Ah oui, sympa.
Nous maintenant, voilà, ça nous fait rire, mais c'est vrai que c'était le quotidien des femmes d'avant, donc c'est
moins
rigolo. Mais il
n'y avait pas MeToo avant, donc
c'est ça, voilà. Mais c'était
de quand, ce texte?
Je crois que ça, c'était une émission qui passait dans les années 1960-70.
Ah oui, ah ouais. Oui,
et elle a reçu des milliers de lettres, et là c'était que des lettres d'hommes. Alors on voyait des hommes de tout âge, de tout type, hein, donc il y avait ces machos-là, il y en avait d'autres beaucoup plus tendres et doux, mais ça m'a fait rire, c'était très mignon, très rigolo. Donc voilà, c'est la première chose dont je voulais parler, parce que ça sera l'année prochaine aussi, c'est toujours le 14 février à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, et c'est diffusé sur les radios, Radio CAFPO, il y avait Radio Campus, il y avait plusieurs radios qui étaient en ligne comme ça, non-stop, donc c'était trop chouette. Ce dont je voulais parler, moi, alors il y a deux choses, juste, ça va aller assez rapidement. C'est la semaine prochaine, vous avez le choix entre, non, il y aura d'autres choix que cela, mais il y a le 22 février, c'est un jeudi, le 22 février, il y a au Studio 55, la salle dont je parle souvent à côté de Montaudran, le spectacle Les Misérables. C'est une compagnie qui s'appelle Music Hall. Ils sont assez nombreux sur scène, ils sont 5. Il y a Cyril Baquet, Isabelle Pi, Gauthier Vasseur et Célia Carrero, et aussi Jonathan Fuser. Ils sont 5 et c'est une parodie des Misérables, donc en chanson, avec des musiques. Je connais pas mal ce spectacle, même si je sais qu'il a bien évolué parce que je l'ai joué, en fait, il y a pas mal d'années. Et j'ai dû quitter le projet pour d'autres raisons, mais ils continuent, ils ont des nouveaux comédiens, donc ils ont certainement fait évoluer la mise en scène, et j'ai hâte de voir ça. Donc c'est au Studio 55 à 20h30, il me semble. N'hésitez pas à réserver pour être bien sûr d'avoir votre place, mais c'est un lieu assez grand, il y a 240 places, c'est très cosy. Vous y êtes déjà allées, les filles, ou pas encore?
Non, pas encore, pas au Studio 55.
Pas encore. Ben, c'est très confortable. Les sièges sont très douillés. Il y a des petits coussins pour ceux qui ont mal au dos. Donc, n'hésitez pas à réserver. Mais je pense que même sans réserver, on peut y aller, on peut tenter. Il y a de quoi se garer aussi et se sustenter. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la même semaine. Donc, c'est avec ma compagnie. Hein, je vais en profiter.
Allez, de l'auto-promo.
Voilà, un peu de promo.
Ça fait
un petit moment.
Tu as raison, ça aussi.
C'est notre spectacle Coulisses. Au Grenier Théâtre, cette fois, à côté de Argoulet. Je parle souvent de ce théâtre. Vous le connaissez toutes?
Oui, oui.
Ah bah oui.
Et donc, là, on y joue Coulisses. C'est un long format, toujours, d'improvisation. On est 4 sur scène. La scène sera les coulisses. Ça formera les coulisses. Et les vraies coulisses, ça sera comme si on montait sur scène. Donc, on est une troupe. On va vous poser des questions au début du spectacle, comme toujours. Il y a des questions du genre, il y a quelqu'un pour moi dans la salle ce soir, qui c'est d'important, pourquoi je fais ce métier, pourquoi j'ai décidé d'être comédienne ou comédien. Il y a quoi d'autre comme question? J'ai une habitude, une petite habitude que je fais avant de jouer, qu'est-ce que c'est? Et on va commencer l'histoire, ça va être vraiment l'entrée des comédiens qui arrivent en coulisses avant de jouer. Ils vont jouer la pièce ensuite, la pièce va commencer après la préparation, et on a tout ce qui se passe en coulisses pendant la représentation. On vous demande aussi quelle pièce se joue. Donc souvent, on va vous demander, si vous écoutez, venez avec des livres, des pièces de théâtre en tout genre. S'il y a le résumé à l'arrière du livre, c'est mieux. Comme ça, nous, on lit le résumé si on ne connaît pas la pièce. Et on se dit que on monte ça. Et donc, on va jouer ça. Il y a le régisseur. Là, c'est une régisseuse qui s'appelle Alexandra qui va envoyer des sons qu'elle veut. Comme si c'était le public, on peut entendre des applauses, des boues. Enfin, si c'est la régisseuse s'amuse, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle aussi.
Les tomates.
Ouais, on peut entendre des bruits de tomates. Je sais pas. C'est elle qui choisit. Hein, on sait pas ce qu'elle nous a préparé. C'est donc la semaine prochaine, à partir de mercredi, du 21, 22, 23, 24, jusqu'au samedi à 20h30 au Grenier Théâtre. Et on est des équipes différentes à chaque fois, puisque c'est quatre comédiens qui tournent. Moi, je sais que je joue
toi,
le mercredi, jeudi et samedi.
Donc les trois derniers.
Et avec des équipes différentes complètement folles à chaque fois. Il y a Sylvain Borins, Laurent Berthier, Guillaume Douat, Amandine Richard, Karen Moreau, et je crois que j'oublie personne. Et cette fois-ci, on n'a pas notre pianiste avec nous, mais la régisseuse peut envoyer de la musique comme elle veut. Voilà pour l'autopromo. Maintenant, je vais laisser la parole, parce qu'on a plein de choses à savoir. Là, j'ai hâte d'en entendre.
Ah, j'ai l'impression maintenant pour mes questions. Non, moi, je suis avec Milena de la troupe Legacy. Coucou, Milena.
Bonjour à toutes.
Et vous êtes deux, il me semble, dans cette troupe.
Précisément, on est quatre.
On est quatre.
On est deux artistes et deux régisseuses.
Ah, oubliez les régisseuses, c'est pour ça. Et vous êtes deux artistes à avoir, justement... Créer, on va dire, construit la pièce que vous allez jouer à l'occasion du festival Tapage, qui est le cimetière des éléphantes. Est-ce que tu peux nous en raconter plus sur cette pièce?
Bien sûr. C'est notre première création à la Legacy. On a commencé à créer en fin 2022, donc ça remonte un petit peu. Et là, c'est les avant-premières du spectacle, donc c'est super, on est très contentes.
C'est les avant-premières des premières en plus, comme
première. Exactement. On est finalement quatre au plateau, parce qu'on est deux artistes, mais nos régisseuses sont avec nous sur le plateau et font partie intégrante du spectacle. Et ça, moi, je trouve ça très chouette quand la technique est
sur scène. Oui, on les met en lumière, enfin. Ouais,
c'est ça, elles sont littéralement en lumière et elles font les lumières aussi.
C'est la première fois qu'elles sont en lumière, elles ou...
Il y en a une qui a déjà fait ça, et d'accord, qui a beaucoup rigolé, qu'on lui a demandé, parce qu'elle dit que ça devient une habitude dans les compagnies de me mettre sur scène.
On veut la mettre en valeur.
C'est ça. C'est un spectacle qui parle de la mort.
Ouais,
j'en viens directement
sur
le fait.
Avec le teaser, oui.
Avec le teaser et le titre aussi, quand même, le cimetière des éléphantes. C'est pas, ça fait un peu peur quand on dit ça, généralement, mais c'est pas du tout une histoire triste. Ça parle de la mort parce que, en fait, nos deux protagonistes sont... on incarne des femmes qui sont mortes et qui, paradoxalement, vivent leur meilleure vie dans la mort. Ça nous fait beaucoup rire. Et c'est vraiment tout le long du spectacle, on fait un petit peu des ellipses narratives. Du coup, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Et c'est ça qui est intéressant aussi. On comprend au fur et à mesure pourquoi elles sont mortes, qu'est-ce qu'elles font là. Et vraiment, c'est par moments, ça peut paraître triste, mais il y a beaucoup de joie. Nous, on s'amuse beaucoup sur scène parce qu'on a vraiment essayé de fantasmer en fait notre mort parfaite.
C'est une sorte de résilience en fait.
Un peu, ouais, je pense. Et d'émancipation dans la mort. Un peu paradoxal.
Ah ouais, c'est fort.
Ouais. Oui, ça se ressent dans le teaser parce qu'on voit danser, il y a tout un aspect chorégraphique. Ça, du coup, ça revient à une autre. À une question, parce qu'en fait, c'est du théâtre physique.
Oui.
Ça, c'est un nouveau terme que j'ai appris. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le théâtre physique?
Alors, oui, c'est peut-être un petit peu l'enfant bâtard du théâtre et de la danse, je dirais.
C'est un mix.
L'enfant prodige, plutôt.
Ou peut-être l'enfant prodige.
Ouais, l'enfant prodige.
C'est plus joli dit comme ça, ouais. C'est quand on se situe pas tout à fait dans le théâtre pur et dur, à texte. Et quand on n'est pas non plus que chorégraphique. En l'occurrence, moi, je viens plutôt du cirque, donc très physique. Et ma binôme de spectacle, Lucia Weiss, elle vient de la danse. Et on a réussi ce croisement-là de faire quelque chose où c'est très physique sur scène. On bouge beaucoup, il y a pas mal de danse et il y a beaucoup de physicalité, mais tout en restant très théâtral parce qu'il y a une histoire qu'on parle quand même et qu'on raconte des choses. Et on peut vraiment suivre une trame tout le long du spectacle.
Et est-ce que alors, du coup, pour l'aspect théâtral, vu que c'est pas forcément des parcours d'où vous venez, c'est très clair la question. Est-ce que vous avez fait appel en fait à des intervenants extérieurs, peut-être pour avoir des aides, ou est-ce que c'était vraiment purement autodidacte pour le coup ?
Non, on a commencé seul avec ce qu'on appelle de l'écriture au plateau. On n'avait pas de texte, on avait juste une idée et on avait un cercueil. Ça a commencé comme ça avec des impros et cet objet-là.
Un vrai cercueil ?
Alors pas tout à fait, non. J'avais construit avec mon grand-père un cercueil en kit.
Wow.
Et j'ai débarqué chez ma binôme une fois et je lui ai dit, voilà, j'ai une envie de spectacle, j'ai un cercueil, qu'est-ce qu'on fait ?
J'imagine sa tête complètement atterrée. Attends, c'est quoi ton idée de spectacle ? Parce que là, tu me fais peur quand
même. Comment avoir une idée de faire ça avec son grand-père ?
Ça, ouais, c'est en plus, ça, me... ouais, ça l'a fait beaucoup rire aussi à lui, mais c'était un bon moment de bricolage.
Tu me fais un cercueil, papy ?
C'est ça. C'était ça la question.
Mais il a dû être inquiet, non, au début ?
Bon, non, il s'est porté, il est très cool.
Comme je connais un peu ta famille, méthode pas tant du grand-père.
Il était ravi de bricoler avec moi,
finalement. Il est tout confort, le cercueil, ou il était rudimentaire ?
Il était très rudimentaire, et maintenant, il y a une version que vous pourrez voir, les fameuses 24 et 26, qui est très updatée, comme on dit. Elle est molletonnée à l'intérieur, sur roue, c'est la folie, c'est le cercueil 2.0, donc ce n'est pas un vrai cercueil.
Il se conduit tout seul.
Mais oui, il se conduit, il bouge.
Ah, je suis d'accord.
Ouais, vraiment, on fait beaucoup de détournements d'objets dans le spectacle, du coup, il se transforme en plein de choses, notamment en baignoire et en voiture.
En baignoire, ouais.
Même s'il reste... Il fait réaliste, en tout cas, ça c'est sûr, mais c'est pas un vrai cercueil homologué, que tout le monde se rassure. On ne l'a pas volé dans une morgue.
On ne sont pas trop déçus.
Non, mais construire des mains, c'est encore mieux, quoi.
Oui.
C'est encore plus
l'histoire
fort.
L'histoire est marrante.
Déjà, l'histoire d'origine est très marrante.
Où est-ce que vous jouez, du coup ?
On joue... C'était ça la question, hein, oui.
Ou c'est que t'allais poser la même question ?
Non, j'allais poser une autre question, c'est pour ça que je te laisse poser la question.
Bon, moi, c'est une petite question rapide. Grand Rond, non, je vois ?
Oui, c'est ça. C'est dans le cadre du festival Tapage, au Théâtre du Grand Rond, qui est un festival, c'est la première édition. Le Grand Rond, c'est un gros challenge qu'ils font avec ça. C'est un festival dédié aux compagnies émergentes. C'est du 19 février au 10 mars, ça dure quand même 3 semaines. Il y a une cinquantaine de spectacles. C'est vraiment très intense. Ça commence lundi prochain, le 19, et il y aura plein de choses à aller voir. Et nous, on joue deux fois dans ce cadre-là, quoi. Le samedi 24 à 11h et le lundi 26 à 21h.
Et c'est un festival qui est là pour mettre en lumière en fait les jeunes artistes qui débutent.
Émergents, ouais, qui n'ont pas
la
trop...
La question que j'allais... Oui, du coup, j'ai vu sur le teaser qu'il y avait quand même beaucoup de décors. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'éléments. Alors, est-ce que c'est que de la fabrication avec le grand-père ou est-ce qu'il y a d'autres provenances, du coup ?
Il y a d'autres provenances, notamment le compagnon de ma binôme, Lucia, qui a fait le cercueil, qui a fait la structure, parce qu'on a une structure de fond de scène qui fait rideau rouge, parce qu'on a aussi, on l'a pas dit, mais un esthétique qui est très cabaret. Ouais. On a appris les codes des cabarets 1920, des choses comme ça, avec un peu les meubles 1900, quoi.
Ah ouais, elles sont bien là-haut, quoi.
Ouais.
Franchement,
on est bien, mais c'était l'idée, c'est de se mettre vraiment bien.
Fort.
Il n'y a pas des musiques de 1900, non ?
Alors, par contre, il y a de la musique,
aussi. Il y a de tout, mais notamment, il y a des musiques un peu de ce style-là. Et donc, oui, il y a des petits meubles un peu d'époque sur scène.
Il y a des petits escarpins brillants,
c'est
le confort.
Ouais.
Tu l'as déjà vu, Tiffaine, toi ?
Pas encore, j'ai
elle
vu
le teaser.
On peut le voir où, le teaser, d'ailleurs ? Sur le site du Grand Rond ?
Sur le site, oui. Sur la rubrique réservation. Et bien sûr, sur notre site à nous, legacy.com.
Et sur votre page Facebook aussi, il y a un lien.
Il y a aussi un lien. Il est sur les réseaux sociaux. Ouais. Et Legacy, c'est une bonne question. Parce que souvent, on se dit, c'est sans doute comme en anglais. Et en fait, non, c'est LEGUACIE.
Ah oui,
à la française, quoi.
Pas du tout pareil.
Non.
Alors, voilà. Le teaser, j'ai l'impression que on dirait vraiment que c'est un montage professionnel. Donc, je ne sais pas, est-ce que pareil, vous avez fait appel
oui,
à quelqu'un ?
Oui, tout simplement. Pour la prise d'image, c'est des pros. Vraiment, c'est une boîte de production d'images. Et le montage, c'est notre régisseuse lumière, Marjolaine Grenier, qui est aussi monteuse et qui a fait un super travail. Parce qu'en plus, c'était pertinent que ce soit elle qui le fasse, vu qu'elle connaît très bien le spectacle. Elle a réussi à nous faire un teaser qui représente bien ce qui se passe. Ouais, et en même temps, qui laisse un peu de suspense, c'est ce qu'on voulait aussi.
Une question par rapport au titre, c'est le cimetière des éléphantes. Alors, pourquoi les éléphantes ?
Et déjà, pourquoi le cimetière des éléphantes ? Vous connaissez sans doute l'expression. Le fameux aller au cimetière des éléphants.
Ah, moi, je connais pas l'expression.
Moi, je connaissais
j'ai appris un truc.
Non, c'est, mais je pense que tu connais sans connaître, peut-être. C'est vraiment cette notion du cimetière des éléphants où on dit de quelqu'un qu'il est dépassé ou périmé quand il va au cimetière des éléphants. C'est une expression populaire.
Il a passé son tour.
Oui, il a passé son tour, exactement. C'est vraiment ça que ça signifie. Et on est parti de ça. C'était voulu, quoi, de partir sur cette notion-là. Et bien sûr, de le féminiser, parce que tout simplement, eh ben, on n'est que des femmes sur scène, déjà, minimum, quand même. Et en plus de ça, parce que cette notion de dépasser, c'est souvent rattaché plus aux femmes dans cette société-là. Et ça, on voulait aussi le pointer du doigt. Et l'autre référence, c'est Eddie Mitchell.
Ah,
cimetière des éléphants.
Ouais,
qui est dans le spectacle. Il y a une scène très sympa où il y a la musique d'Eddie Mitchell qui passe.
D'accord.
Justement, aussi par rapport à ce que tu disais sur le fait que la notion d'être dépassée, ça se rapproche plus souvent des femmes. Est-ce qu'il y a une volonté un peu de détourner ça aussi dans le spectacle? Ou pas du tout, vu que c'est quand même. Il y a l'impression qu'il y a quand même de l'humour, c'est quand même traité de manière très, entre guillemets, absurde, même si je pense pas que ce soit le bon terme.
Si, si, c'est le bon terme parce qu'on joue beaucoup sur l'absurde. Il y a des scènes vraiment qui sont très décalées, mais c'est ce qui nous a permis aussi de nous éclater, c'est que c'est pas réaliste. Et du coup, on s'est dit, on vit dans la mort, on fait ce qu'on veut. Et il y a peut-être cette notion aussi de dépassement, de dire, en fait, on est éternel si on veut être éternel. Et je pense que c'est aussi ce que ce spectacle raconte. On fera ce qu'on veut et on le fera éternellement.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs pour qu'ils aient envie de venir voir Legacy?
Moi, déjà, j'ai envie, là.
Le cimetière des éléphantes.
Oh, waouh! Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Quatre femmes sur scène, déjà.
Quatre femmes. Ouais. Si vous aimez la mort et les cercueils. Et Eddie Mitchell.
Si vous voulez voir un cercueil fait main.
Qui bouge tout seul, venez nous voir.
L'absurde, l'espoir et l'humour en même temps.
Oui, l'humour noir, mais quand même l'humour. Et c'est une histoire qui finit bien. C'est important de le dire. Ça commence mal, mais ça finit bien.
Et pareil, je pense qu'il faut réserver pour le Grand Rond, parce que c'est une salle qui n'est pas non plus immense et qui est vite remplie parce qu'ils ont du succès. C'est un théâtre, c'est une institution un peu à Toulouse.
C'est toujours mieux de réserver. Pareil, vous allez sur la rubrique Tapage Festival et par jour, ils ont bien fait ça. Sur leur site, il y a toutes les réservations possibles. C'est possible même de réserver sans payer directement et de payer sur place si les gens ne sont pas sûrs de venir, des choses comme ça. C'est pas mal.
Bah, je veux bien que tu nous redises le titre, peut-être. Le titre et les dates, comme ça.
Alors, c'est le cimetière des éléphants de la Legacy Company. Ça jouera au Théâtre du Grand Rond le 24 février à 11h et le 26 février à 21h.
Et on peut trouver vos actus sur Facebook.
Sur Facebook, et sur Instagram, sur le site internet.
Surtout. Merci en tout cas, Amina. J'avais juste une toute dernière question. Alors, la musique, c'est que des. Il n'y a pas de composition originale.
Si, super. Merci de poser la question parce que j'oublie en plus d'en parler. Notamment, on a eu du coup cette fameuse création Lumière, mais en son, on a Hélène Relano qui nous a fait plusieurs créations uniques pour le spectacle et notamment la musique finale qui est une pépite, qui est un peu boum boum électro. J'en dis pas plus parce que c'est un peu le bouquet final du spectacle où ça pète et ça danse beaucoup avec une musique à beat électro qui est très sympa parce que ma binôme Lucia, elle est spécialisée dans la danse électro notamment. Et donc, c'est des créations uniques et ça c'est notre petite victoire aussi d'avoir réussi à avoir des belles créations sonores pour ce spectacle.
Et ben, je profite qu'on parle de musique pour annoncer la première pause musicale et c'est toi, Vanessa, qui l'a choisie. Donc, je te laisse la présenter.
Merci à vous tous.
Merci à toi, Milena.
Merci.
Tu peux rester, t'es la bienvenue.
Ah, oui, bien sûr.
Oui. Tu n'es pas congédiée, tu es priée de rester.
Surtout que ça va bien avec le spectacle et tout, le fait qu'il y a cette dose de féminité, quatre femmes sur scène. Et bien là, moi, je vais vous parler de Morgane, qui a un très beau single qui s'appelle Madame. Elle vient de sortir un album et franchement, ça vaut le détour. C'est une chanteuse, rappeuse et qui mâche pas ses mots.
Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte, y'a les sommes. Entre mes deux cuisses, y'a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame. Il me dit retourne à la cuisine parce qu'il sait pas la faire. Je l'aime quand il nettoie ma piscine et qu'il remplit mon verre. Je comprends qu'il soit vénère, il a l'impression que je lui ai pris sa place dans l'univers. C'est pas vraiment de sa faute, on lui a dit. Il faut que ta bite soit grosse, mais pas ta petite amie. Il faut qu'elle soit parfaite et qu'elle fasse pas trop de bruit. Sauf au lit, là faut que ça gueule. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux cuisses y'a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux cuisses y'a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame.
Celui qui pense que je vais laver ses draps et ses assiettes se met le doigt exactement là où il veut que je le mette. C'est pas de ma faute, j'ai jamais voulu porter de collier. La laisse, on a voulu me la mettre, mais je suis devenu le maître. Le confident, l'homme riche, l'enfant prodige. Je suis le mascu et la tepu dans la même pouliche. Entouré d'hommes, si tu savais comme je les aime. Celui qui déverse sa haine ne supporte pas de me voir raide. Je suis plus bonne que ta sœur, plus viril que ton père. Tu m'étonnes que t'es le seul. Tu cherches à faire baisser la puissance de ma crédibilité, hein, ça fait sens. Car ta vie semble être insignifiante. Ton aigreur est le résultat de ta négligence. Ça doit être dur d'être un homme avec des convictions. La masculinité, quelle putain de prison. Quand on est un garçon, je suis qu'un humain de toute façon. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux cuisses y'a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame. Je suis bien plus qu'un homme, pourquoi ça t'étonne? J'ai l'audace, l'ambition et sur le compte y'a les sommes. Entre mes deux cuisses y'a la porte qui mène les âmes. Dans le monde des humains, bien sûr, appelle-moi madame.
Voilà, ça dépote, hein, Morgane.
Ah ouais, j'aime bien.
C'est trop bien.
J'adore, ça swing et tout. Rap, pop, électro, on ressent toutes les vibes. Et si Morgane, m'a tapé dans l'œil, c'est parce qu'elle joue dans la comédie musicale Molière.
Ah, oh,
c'est
oh,
wow. Une des nouvelle principales d'ailleurs. Oui, oui, une nouvelle comédie musicale. Et je suivais ses réseaux sur Instagram. Oui, maintenant je suis sur Instagram à fond. Et j'ai vu justement ses chansons. Et en plus, qu'elle avait été, on va dire, les personnes avaient mal apprécié. Il y avait une vidéo qui avait circulé où elle avait fait bouger un des personnages dans la pièce. Parce qu'elles doivent se mettre à un certain endroit pour faire des chorégraphies. Et il y en a qui ont dit, oui, elle l'a poussée, elle l'a envoyée valser et tout. Bah, c'est pas du tout ça. Tout, voilà, hein. C'est parce qu'elles ont des placements et qu'elles voulaient l'aider. Et ça a été mal pris. Et je me suis dit, ah tiens, un cri, machin. Et j'ai continué à scroller sur son Instagram. Et j'ai trouvé ses chansons et ça m'a percuté et ça m'accompagne. Et franchement, son premier album, Racine, vaut vraiment le coup d'œil. Et il y a aussi une partie acoustique. Je vous laisserai la découvrir.
Sa voix me rappelle un peu Oshi. Un petit peu.
Ah oui, il y a un petit grain.
Un petit grain, ouais.
Je crois qu'on a Pascal, c'est ça, Tiffaine?
Je crois, oui, j'ai cru entendre un bruit de fond. Allô, Pascal?
Oui, bonjour les filles, je suis bien là.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour, tout le monde va bien?
Bah écoute, ça va, hein, c'est les vacances, donc je peux venir à la radio, tout va bien.
Bon, mais puisque c'est les vacances, et comme je vous l'avais promis la dernière fois, je vais vous parler de littérature jeunesse.
Ah bah oui, c'est de circonstance. Aujourd'hui,
mais d'une façon un peu particulière. Parce que, bon, parler de littérature jeunesse, même en condensant, vous vous doutez bien que ça prendrait des heures. Parce que les publications sont tellement nombreuses et variées, et pas toutes recommandables, il faut le dire aussi. Mais depuis quelque temps, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur chez les plus jeunes lecteurs, c'est celui de la BD, et plus particulièrement celui de la BD petit format, avec d'un côté les mangas, qui jusqu'à présent concernaient surtout les ados et les jeunes adultes, et puis les BD issus des périodiques jeunesse, essentiellement ceux édités par Bayard Press d'ailleurs, avec en tête de file la star Mortel Adèle, dont vous avez sûrement entendu parler, créée par Antoine Dole, mais aussi Anatole Latui, Lariol, enfin beaucoup d'autres.
Alors, la musique dans la tête. Mortel Adèle.
Oui, parce qu'il y a des CD qui, elle chante parfois dans certains.
D'accord. Bon, non, c'est vraiment la superstar. Moi, je n'arrive pas à les garder en rayon, ces petits livres. C'est l'enfer. Et du coup, enfin, je pense que le format pratique, facile à manipuler, à transporter, très coloré, hein, parce que le marketing, ça marche quand même très bien. Et puis des personnages un peu transgressifs qui rentrent pas tout à fait dans le moule, tout en restant des enfants, ça fait le succès de ces livres. Bon, alors loin de moi l'idée de dénigrer la bande dessinée, hein, qui reste quand même un genre littéraire majeur, et puis en plus qui recèle des trésors de créativité. Mais je trouve que concernant la tranche des 8-10 ans, elle prend beaucoup trop de place dans leur lecture. aujourd'hui dans nos bibliothèques, enfin dans la mienne en tout cas, qui reçoit énormément d'enfants, 90% des emprunts des 8-10 ans concernent la bande dessinée. Or, à 8-10 ans, c'est l'âge où l'enfant consolide son apprentissage de la lecture. Il est encore balbutiant, hein, c'est 8 ans, c'est le CE1. Il est quand même bon de varier différentes formes de littérature. Parce que, bon, notamment, le vocabulaire du récit qui apparaît très peu dans les BD est complètement différent de celui du langage parlé très utilisé dans les bulles. Et même chose concernant les temps de conjugaison, les mots de liaison, j'en passe. Et en plus de ça, j'ai remarqué que le support de l'image, nos enfants, ils sont tous de la génération de l'image, hein, et pas que nos enfants, les grands aussi. C'est un fait. Ce support de l'image, il aide considérablement à la compréhension. Et bon, pour terminer,
ça développe moins l'imaginaire un peu peut-être.
Voilà, il y a ça aussi. Et puis il y a surtout, je pense, que la véritable lecture demande un effort. Et certaines BD, alors pas toutes heureusement, hein, elles évitent l'effort aux jeunes lecteurs. Et puis, voilà, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en 20 ans de métier, j'ai vu la lecture du roman enfant, mais vraiment décliner, à mesure que l'engouement pour la bande dessinée augmentait. Et puis, malheureusement, corollaire à ce constat, le niveau de lecture des enfants entrant en 6e a lui aussi drastiquement chuté. Alors, bon, je veux inquiéter personne, hein, on ne doit pas s'inquiéter si son enfant ne lit que des BD. C'est préférable de le voir plonger dans une BD que de le savoir complètement accro aux écrans. On est tous d'accord là-dessus. Mais bon, si on veut lui éviter, comme je le vois souvent, là, ça fait deux parents rien que la semaine dernière qui m'en ont parlé, que les enfants soient complètement perdus face à un roman imposé par le prof de français au collège, ben, il existe des maisons d'édition qui proposent des collections très intéressantes qui permettent de motiver les enfants, leur permettent de varier leur lecture et surtout bien les aider parce que bon, ils vont à l'école, hein, c'est sûr, et les apprentissages passent essentiellement par l'école, mais l'école, elle ne fait pas tout. Ça peut les aider à bien maîtriser la lecture. Voilà. Donc c'est bon, aujourd'hui, on sait que la lecture, c'est le préalable à tous les autres apprentissages. Et puis surtout à l'entrée dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé et surtout déshumanisé, et toutes les démarches passent par la lecture. Donc vraiment, aimer lire c'est bien, mais savoir parfaitement lire c'est quand même un préalable. Donc je vais vous parler de ces petits romans courts. Alors ils sont courts justement, ils ne découragent pas les enfants, ils sont très bien écrits et ils les aident à progresser dans cet exercice qui est souvent la bête noire des plus jeunes, la lecture. Donc, et je vais commencer par des collections, on peut commencer par celle-là d'ailleurs, avec tous les enfants, qui mélangent texte et illustration. Alors ça passe toujours mieux quand il y a quelques images, là, ça on le sait, et d'ailleurs les éditeurs l'ont bien compris, parce que dans la majorité des romans jeunesse qui sortent aujourd'hui, il n'y a pas autant d'illustrations que de textes, mais pas loin, quoi. Donc il y a une très bonne maison d'édition qui s'appelle Talent Haut, je ne sais pas si vous la connaissez. Alors, ils sont spécialisés dans le décryptage des stéréotypes, et notamment sexistes. C'est pas complètement inutile aujourd'hui, je pense. Et ils proposent notamment la collection pour cette tranche d'âge 8-10 ans qui s'appelle Livres et Égaux. Ce sont des petits romans qu'on peut lire avec eux. C'est intéressant de les lire avec eux parce que, en plus d'apprendre à lire, d'aimer lire, ça ouvre à des discussions. Dans la foulée, on peut discuter avec les enfants. Moi, je leur lis souvent ces livres et on engage un petit débat après la lecture et c'est très intéressant.
Ensuite, sur quel sujet, par exemple, Livre et Égaux? Tu as un titre? Enfin, il y a différents titres. En fait, on demande Livre et Égaux quand on va dans la librairie.
Alors, Livre et Égaux, c'est la collection. Alors, je vous donne. Alors, je dois avoir un titre sous la main, là. Voilà, le titre que c'est sous la main, ça s'appelle Une place dans la cour, ça s'appelle.
D'accord.
Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans la cour et avec ses copines et elle râle parce que les garçons jouent au foot et qu'ils prennent toute la cour, quoi. Donc, elles vont essayer de jouer au foot avec les garçons. D'accord. Voilà, c'est des petites histoires qui les concernent, hein. En fait. Ils se sentent impliqués dans l'histoire parce que c'est des histoires qui parlent un peu de leur vie quotidienne, pas qu'à l'école, mais aussi à l'école, avec des enfants de leur âge. Donc, c'est très, très bien fait. Il y en a
Une pléiade. Oui, c'est un peu à l'instar des Max et Lily. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, les Max et Lily.
Oui, je connais.
Voilà, c'est un peu, ça me fait penser un peu à ça.
Et les Max et Lily, c'est de la petite BD quand même aussi.
Oui, mais ça n'empêche pas que c'est la même chose. Ça reste le même principe en fait. Oui, c'est juste la version de la roman BD. De Max et Lily, quoi.
C'est des sujets qui ouvrent à débat et sur lesquels on peut discuter après. Les Max et Lily, c'est vrai que c'est bien. Des fois, il vaut mieux les lire certains avec les parents à côté aussi, parce que voilà, c'est un peu compliqué, je trouve, les sujets. Pas forcément la lecture, mais les sujets. Ensuite, il y a les éditions Kilowatt, qui offrent également des textes très intéressants pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, avec la collection Les Capoches. Alors, c'est pareil, c'est spécialement adapté à cette tranche d'âge. Et là, il y en a, par exemple, qui s'appelle Un zombie dans ma maison. Voilà, donc c'est des petites histoires parfois fantastiques, un peu aventure, un peu voilà, on est moins dans le, comment dire, dans la vie quotidienne. Là, on est plus dans l'imaginaire. Ils sont aussi très très bien faits et surtout pas décourageants, parce que c'est ce qui est très important pour cet âge-là. Après, il y a évidemment l'école des loisirs, hein, celle-là on a pu à la présenter, hein, parce qu'elle a fait ses preuves en termes de qualité et elle a bien amélioré son marketing, parce que je vous le disais tout à l'heure, le marketing, c'est quand même très important. Et maintenant, elle propose des premières de couverture illustrées, et parce que souvent, c'était très, très austère, pour ne pas dire moche pour certaines, mais bon, ça n'engage que moi. Et la collection qui est pour les 8-10 ans, elle s'appelle Mouche, et elle offre vraiment des chouettes petits romans avec maintenant des héros récurrents, dont le plus connu, c'est l'inénarrable Chien pourri. Vous connaissez peut-être Chien pourri.
Oh oui, j'ai déjà vu ça. Ça m'avait attiré l'œil dans, je crois, à Ombre Blanche. Et voilà. Le titre, ça m'a pas surprise et j'ai regardé un petit
Alors,
peu.
Alors, Chien pourri fait du ski, Chien pourri à Noël, enfin voilà. Donc, c'est rigolo. Là, on est plutôt sur le registre de l'humour, mais les enfants adorent Chien pourri.
Comme nous, quand on était plus jeunes, on avait les Martines.
Il y a Mimi Cracra aussi.
Il y avait les Martines. Alors, les Martines, ça reste quand même un peu ringard aujourd'hui.
Il y a un côté plus gentil.
On a grandi avec, hein.
Il y a un côté, c'est plus gentil que Chien pourri, quoi. Avec le titre.
Mais je vous garantis, ils aiment bien Chien pourri, les enfants. Quand il y a pourri, quand il y a un peu des mots un peu transgressifs comme ça, ils adorent. Et puis, une fois qu'on a passé ces petits romans très illustrés, on peut passer sur des romans qui sont sans illustration. Alors là, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, vraiment, ça active le côté imaginaire de l'enfant. Et ça, c'est pas mal. Il s'imagine lui-même ses personnages. C'est une autre façon d'aborder la lecture. Mais les collections que je vais vous présenter là sont toujours des collections avec des petits livres très courts, une cinquantaine de pages maximum. Hein. C'est vraiment très petit. Et ma collection préférée dans ce genre-là, c'est la collection Petite Poche, qui est éditée chez Thierry Magnier.
Au singulier ou au pluriel, Petite Poche?
Au singulier.
Tu fais ton marché.
Je note, hein, moi j'ai je suis une belle maman d'une petite de 10 ans, donc je note.
C'est Petite Poche, c'est vraiment très chouette. Alors c'est des petits romans très courts. Alors là aussi c'est des sujets souvent inspirés de la vie quotidienne des enfants, mais pas que. Et là il y a une particularité, c'est la mise en page. Elle est vraiment spécifique et elle prend en compte le rythme de lecture. C'est-à-dire, il y a des phrases courtes qui font sens tout en intégrant du vocabulaire un peu exigeant, mais ça va pas gêner l'enfant dans la compréhension. C'est très, très bien fait. Par exemple, il ne coupe jamais les mots en fin de phrase. Il y a toujours des mots entiers parce que quand on est en début de lecture, des mots coupés, ça peut poser problème. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont faciles à lire. Et puis il y a vraiment des très bons auteurs qui contribuent à cette collection. Ben Soussan, je sais pas si vous connaissez, il fait des trucs un peu humoristiques.
Il dit quelque chose.
Il y a je sais pas, il y en a plein, il y a ah, ça me vient plus, mais bon, enfin bref, il y a de très bons auteurs. Donc ça s'appelle Petite Poche chez Thierry Magnier. Ensuite, il y a les collections Mini Syros. Alors, cette collection Mini Syros, elle se décline en trois genres. Il y a le roman classique, puis il y a le polar et la SF. Et pareil, c'est des petits romans très courts. Le polar, ils se reconnaissent parce qu'ils sont jaunes et noirs, ils sont très faciles à repérer. Et là, c'est très intéressant pour les enfants qui aiment bien s'évader ou frissonner. Et ça mobilise vraiment leur imagination. Ils sont très, très sympas, ceux-là aussi, les mini-syros. Et donc, je finis. Donc, la dernière édition, c'est le Rouerg. Et l'édition s'appelle, la collection s'appelle Boomerang. C'est des petits romans recto-verso sur deux histoires sur un même sujet. Voilà, c'est très intéressant. Ouais. Voilà, j'ai fini. Toutes ces collections, vous les trouvez chez tous les bons libraires. Ombre Blanche, entre autres, et puis dans toutes vos bibliothèques.
Oh bien, merci, bah, merci beaucoup, Pascal,
pour ces conseils. Allez, à la prochaine fois. Peut-être qu'on verra les albums jeunesse aussi pour les plus petits. Il y en a vraiment des chouettes aussi.
Ouais, avec plaisir. Carrément, avec plaisir.
On changera, on reculera en tranche d'âge. à une prochaine fois.
À dans 15 jours.
À bientôt.
Au revoir.
Ok, bah, du coup, je te propose qu'on passe à la deuxième pause musicale que tu as choisie, encore une fois.
Oui, alors j'ai choisi une rappeuse pour commencer et là j'ai un rappeur, c'est Youssoupha avec Mourir mille fois. Et j'ai découvert ce titre et ce rappeur en allant voir un film qui m'a mis KO et je vous en parlerai après.
Alors ton deuil c'est mon deuil. Je vibre quand tu vis, un cœur pour un cœur. Puisque je brille quand tu brilles, alors je meurs quand tu meurs. Dis-moi pourquoi je m'essouffle et je m'entête. Pourquoi je tousse, pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre. Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte. Pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous. Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion. Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram de l'au-delà. J'ai des rêves en dollars, c'est percutant, mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps. Mon tourment n'est pas un effet de mode, j'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoupha est mort. Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette. Personne ne connaît mes rancœurs secrètes. Je crée mes propres modes. J'ai pas de modèle et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des croque-morts. Entre la scène et la mosquée, je traîne beaucoup de remords. Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort? Et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Moi j'ai perdu tellement de proches, j'ai l'impression de mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte, du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte. Nos bravoures et nos larmes, nos amours et nos drames. Le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes. Nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos crashs. Et tout ce qu'on dit tout bas et tous les combats que l'on cache. Car peu importe de vivre tout, de vivre droit, de vivre fou, de vivre froid, puisqu'on va mourir mille fois. Et même en mille phrases, je te jure les mots me manquent. Et même en mille phrases, toujours la mort qui me hante. Chacun son propre vide. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un deuil est un deuil, j'essaie pas de faire la diff. Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Loin des vices à la mode, je marche seul. Même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Alors j'ai vraiment l'air anéanti. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti. repenti mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos psy, laissez-moi croire en mon prophète. J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche, mais trop de frères qui me crèvent et qui me plantent. Je repense à Tupac et Biggie. Le rap game te souhaite la mort et à ta mort il fait des t-shirts à ton effigie. Je me réfugie jamais dans la rancœur. Papa je te porte dans ma tête et Malik te porte dans son cœur. Mes souvenirs sont vides à ton enterrement. Je ne pleurais pas mon père, moi je pleurais le grand-père de mon fils. Les sacrifices nous rendent avisés. On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant que l'on n'est pas brisé. Mais on se relève toujours, tu le vois. Même si perdre autant de proches donne l'impression de mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Mourir mille fois. Et on repart sans que le temps nous répare.
Voilà, c'est vrai que c'est aussi très fort en texte, très fort la musique. Et eh bien, c'est avec le film Green Border que j'ai découvert ce rappeur et cette musique. Green Border, c'est un film qui est sorti le 7 février. Et c'est un film qui met des uppercuts, qui met KO. Alors, ça parle de migrants, d'une famille syrienne, qui veut franchir la frontière Biélorusse-Pologne pour se rendre en Suède. Et là, ils vivent un enfer total entre les gardes frontaliers biélorusses et polonais qui les prennent pour des balles de ping-pong. Donc, ils sont une dizaine comme ça de migrants qui sont frappés, qui sont mis plus bactères. On les désinhumise, on leur fait comprendre qu'ils ne sont absolument rien, qu'ils n'ont pas voix au chapitre. C'est vraiment atroce, c'est très dur. J'avoue que y en a beaucoup qui disaient que la première demi-heure, c'est très très dur à encaisser parce que on voit vraiment la réalité des choses et le film est en noir et blanc. Ce qui donne encore plus d'impact. On a vraiment l'impression d'être un envoyé spécial au cœur de l'action, au cœur de ce qui se passe. Et c'était pas loin, c'était en 2021, ce qui se passait à la frontière Biélorusse-Pologne. Et puis on voit, on a un point de vue, alors des migrants, on a un point de vue d'un garde frontalier qui est pris entre sa conscience et son devoir. On a un point de vue des activistes qui aident ces migrants, mais qui ne peuvent pas aller dans la zone d'exclusion, la zone la plus proche de la frontière, parce que sinon ils sont arrêtés et condamnés. Et on a une femme, Julia, qui elle vient d'arriver dans cette partie de la Pologne et qui apprend tout ce qui se passe et qui va prendre les armes, entre parenthèses, c'est ce qu'on pourrait dire, et qui va aller encore plus loin que les activistes. C'est un film très fort, il y a un très 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 beau casting. Les interprétations sont phénoménales, on est vraiment dedans. On a de l'émotion, on a de la colère qui passe, on est traversé par tout plein de choses. On a Behi Janati Atai qui joue le rôle de Leila. C'est une femme afghane qui va se greffer à cette famille syrienne. Ça va être un peu leur couteau suisse. Elle va tout faire pour être acceptée par cette famille et essayer de les aider. On a Dalia Naous qui joue Amina, qui est incroyable en maman dans cette famille et qui va se rendre compte de l'enfer dans lequel elle a emmené sa famille pour pouvoir normalement les sauver. Et c'est hallucinant parce qu'au début, ils sont dans un avion, tout calme. Ils passent de la Turquie en Biélorussie, choyés, coucounés. Et après, c'est vraiment l'enfer. Et il y a des scènes très forte, très émouvante. Il y a des passages d'espoir, il y a des passages où ça retombe. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du film, les gens sont KO. Dans la salle, au cinéma L'ABC où j'étais, moi j'ai revu le film pour la deuxième fois parce que c'est vraiment un uppercut cinématographique, voire plusieurs uppercuts. Et le générique a commencé, personne ne bougeait, pas un bruit. Le générique s'est fini, les lumières se sont allumées, personne, pas un bruit. Tout le monde est resté dans son siège jusqu'à ce qu'une personne du cinéma vienne pour dire « Excusez-nous, il est 23h30, on va fermer. » Et là, les gens ont repris conscience et ça y est, ça a commencé à parler, ça s'est sorti. On a parlé pendant une demi-heure après. J'ai les avis du public et je vous propose de les écouter.
Bah, on était en train de dire « C'est horrible. » Horrible de se retrouver là alors que voilà, il y a une réalité pas loin de chez nous et ça nous saute aux yeux sur un film comme ça, quoi. C'est dur.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît ?
Catherine.
Pardon, je suis un peu bouleversée. Il était très beau, mais très dur. Et ouais, c'est terrible de se dire que ça fait des années que ça dure et que... Enfin, on fait pas grand-chose pour... Pardon, je ne sais pas trop quoi dire, ça me paraît un peu nul ce que je dis.
Vous voulez rajouter quelque chose ? Vous voulez bien me donner votre prénom, s'il vous plaît ?
Anna.
Je suis passée. Moi, je, non. Moi, je... J'avoue que là, c'est un petit peu difficile. Ouais. Mais je conseille aux gens d'aller le voir, si ça peut éveiller des consciences. Merci.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Stéphanie.
Bah, c'est très fort, émouvant. Et contemporain, ça parle d'aujourd'hui. Un très beau film. Il y a beaucoup de femmes qui agissent, plus que d'hommes, je dirais. Mais ça dit beaucoup de choses. Enfin, je crois que ça en a besoin pour ce genre de film, pour arriver à voir toutes ces images qu'on voit à côté, quoi, à la télévision. C'est très important de voir ce genre de film. C'est une grande dame, Agnieszka Holland.
Je suis d'accord. Je vous remercie. Je pourrais avoir votre prénom ?
Marc.
Voilà, ça se passe de commentaires, mais c'est un film dur, mais nécessaire et essentiel. Ça a fait bouger les choses en Pologne. Oui, parce que ce film a été décrié. Agnieszka Holland, qui est la réalisatrice, qui est incroyable. Si vous avez vu L'ombre de Staline, courez voir Green Border, parce que ça vaut vraiment son pesant d'or. C'est mon coup de cœur 2024 et je crois que ça le restera jusqu'à la fin.
Merci.
Merci.
Bon, maintenant, vous allez prendre tous vos places hein, à l'ABC. On passe le jeudi. Mais bon, vous pouvez y aller le vendredi à 18h10. Et les auditeurs peuvent y aller le dimanche 18 février à 12h45 ou le lundi 19 à 18h15 ou le mardi 20 à 17h45.
Ah, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Ouais.
Non, il faut vraiment voir ce film. Il est vraiment, vraiment incroyable. Et franchement, moi, un film qui nous met autant KO.
Bah, moi, déjà, en ce moment, l'actualité me met KO.
Oui, déjà, j'ai un peu peur, mais si ce film a eu un impact, c'est bien.
Bah, malheureusement, oui, parce que j'ai l'impression que ça commence à chaque fois.
S'il a eu un impact, parce que je sais que j'ai tendance à...
Oui, tout à fait, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement ne voulait pas que le film soit vu en Pologne. Et ils discriminaient ce film. Les extrêmes droites ont manifesté en disant non, il ne faut pas y aller. Et le gouvernement avait même dit eh bien écoutez, non, dans la salle, il n'y aura personne. De toute manière, il y aura que des cochons pour voir ce film. Et il y a des Polonais qui se sont pris, qui ont été dans la salle, qui ont regardé partout, qui ont fait sur les réseaux sociaux, excusez-nous, on est en train de voir, on a vu le film, il est incroyable, mais il n'y a aucun cochon dans la salle, à part si nous, les Polonais, nous sommes des cochons. Et du coup, ça a fait boule de neige et ça a fait 800 000 entrées en Pologne. Et ça a fait bouger les choses parce qu'il y a eu les législatives après, il y a eu un vote, et ce n'est pas l'extrême droite qui est passée, qui devait passer normalement, c'est le centre-gauche.
Il y a eu un vrai impact, voilà. Ça c'est bien.
Maintenant, ça n'a pas encore changé beaucoup.
Non, mais le fait
pas
déjà
mal de
un
choses
impact,
à la frontière, ça va. On espère pouvoir améliorer les choses pour les migrants qui ne souhaitent que sauver leur vie.
Et ça, c'est bien. C'est vrai que quand je vois ce genre de film qui traite de sujets d'actualité un peu hypercute, j'ai tendance, mais ça c'est parce que j'ai tendance à me dire, ok, d'accord, on a vu ce film, mais on fait quoi après derrière ? C'est toujours un peu le sujet. C'est toujours le truc genre, ok, je vois ce film, d'accord, on parle d'un vrai sujet et c'est important. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de on l'a vu et derrière on fait,
bah, tu vois, dans
on
les
fait
votes,
rien,
les
tu vois.
Votes,
donc là, par contre, le fait que c'est eu un impact en Pologne et tout,
mais
ça, c'est vraiment bien.
Après, c'est du bouche à oreille. C'est que les gens, ils ont été voir le film et qu'ils en parlent autour d'eux.
Oui,
tout.
C'est de la sensibilisation.
Voilà. Et puis, inviter le plus grand nombre à voir ce film pour qu'il reste le plus longtemps et que les gens puissent le voir et que ça puisse ouvrir des débats ou autres. Ils l'ont présenté.
Ça rappelle à l'humanité des gens. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets plus brûlants que d'autres, mais arriver à s'écouter et se dire que ce qui importe le plus, c'est la paix et le respect surtout.
C'est ça.
Mais respectez-vous, bon sang.
L'humanité.
C'est évident.
Éveillez complètement. Mais je crois que sur ce, on va pouvoir clôturer cette émission. Merci à vous, les filles, d'être venues,
merci,
comme toujours, fais. D'avoir répondu présente malgré vos obligations.
Merci à notre invité.
Et merci à toi, Milena, tu m'as devancé d'être venue nous parler de cette production, première création. Je te dis merde, on se dit merde et on se retrouve les 24 et 26 février.
Merci à vous de m'avoir invité.
Avec plaisir. Et on merci Léo, évidemment, de faire la technique. On te voit pas.
On lui a piqué son micro.
Et alors là, je vais faire un petit peu d'autosatisfaction. Merci à moi d'animer cette émission et d'être là. Bref, c'était...
Tu as bien raison, Tiffaine. Merci
voilà.
À
toi. Vous pourrez retrouver cette émission sur le site Esprit Occitanie ainsi que sur l'application. On vous souhaite à tous une très très belle journée et on vous dit à très bientôt.